bouchon, hein. Il y a du vent et il fait froid. Merci. Tout de suite, un peu de musique avec ce titre de Vianney en hommage à mon technicien. Mettez où, mettez pas là.
Et ce matin, bon, Nicolas ne sera pas seul. Hein. Sonia et Yael Gauze ont été réquisitionnés pour faire les jingles et mettre l'ambiance. Sonia au ukulélé et Yael au tambourin.
Ben merci Daniel Morin et bonne fête du travail à l'équipe du 7-10. Bonjour.
Bonjour Mathilde Munoz. France Inter, 7h.
France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-10.
Et oui, nous sommes le 1er mai. Bonjour à tous, bienvenue sur Inter. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, la mort d'une icône littéraire américaine. Paul Auster est décédé cette nuit.
L'auteur prolifique de romans, poèmes et films est décédé à Brooklyn, dans sa ville, New York, qu'il a propulsé sur la scène internationale. Benjamin Netanyahou inquiet d'un possible mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. En France, un défilé du 1er mai moins unitaire que l'année dernière. Le Rassemblement National présente aujourd'hui le début de sa liste pour les européennes et puis les adieux de Rafael Nadal à l'Espagne, éliminé hier du tournoi de Madrid.
Et les invités d'Inter ce matin, bonjour Sonia De Villers, 7h50.
Bonjour à tous. Françoise Nyssen, ancienne ministre de la Culture et présidente des éditions Actes Sud, nous racontera son ami Paul Auster, de l'invention de la solitude parue en 1982 à Baumgartner, sortie là au mois de mars. Françoise Nyssen a publié tous les livres de Paul Auster en France. Elle sera au téléphone avec nous à 7h50.
A tout à l'heure, 8h20, le grand entretien de la matinale avec Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT. 9h20, Léa Salamé reçoit l'actrice Juliette Binoche.
France Inter.
Il parlait un français parfait, lui qui avait passé 3 ans à Paris dans sa jeunesse à traduire Sartre ou encore Simenon. L'écrivain américain Paul Auster, longtemps plus connu en France qu'aux États-Unis, est mort cette nuit à New York des suites d'un cancer, selon le New York Times. Il avait 77 ans. Bonjour Sébastien Paour.
Bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Paul Auster s'était fait connaître dans les années 80 par sa trilogie new-yorkaise, cette ville à laquelle il était intimement lié.
Oui, il était né de l'autre côté de l'Hudson, à Newark, dans le New Jersey, mais il est indissociable, effectivement, de sa ville d'adoption et notamment de son quartier de Brooklyn, où il s'installe dans les années 80. Il disait « Quand on a cette ville dans la peau, le reste de l'Amérique a l'air d'un coin paumé ». Mais sa réputation allait bien au-delà, évidemment, des maisons de briques du quartier de Park Slope, où il vivait. En France, notamment, vous l'avez rappelé, il avait vécu à Paris dans sa jeunesse et il parlait très bien notre langue. Il était reconnu dans le monde entier comme son regard beau et triste à la fois. Pourtant, son premier roman, City of Glass, a été refusé par 17 éditeurs avant d'être publié finalement par une petite maison d'édition californienne. On est en 85, ça deviendra le premier volet de la trilogie new-yorkaise. Il y aura ensuite Moon Palace en 89, l'histoire d'un étudiant orphelin qui reçoit un legs de milliers de livres, Léviathan en 92 et plusieurs scénarios, certains qu'il a réalisé, Smoke de Wayne Wong en 95, très inspiré là encore de sa vie à Brooklyn, ou Lulu on the Bridge 3 ans plus tard, toujours avec Harvey Keitel et toujours chez lui, l'histoire d'un saxophoniste de jazz touché par une balle perdue dans un club new-yorkais évidemment.
Sébastien Paour en direct depuis Washington pour Inter. Je vous rappelle que Françoise Nyssen, l'éditrice historique de Paul Auster, sera notre invitée tout à l'heure à 7h50.
Il est 7h03. Benjamin Netanyahou pourrait-il se retrouver au banc de la communauté internationale?
La menace commence à inquiéter le Premier ministre israélien alors que la Cour pénale internationale serait en train de préparer des mandats d'arrêt. La CPI n'a jusqu'à présent fait aucun commentaire à ce sujet, mais des procureurs auraient auditionné ces derniers jours des médecins sur de possibles crime de guerre israélien dans les hôpitaux de Gaza. Selon les médias américains, le Premier ministre israélien serait suffisamment préoccupé pour en avoir parlé à Joe Biden dimanche au téléphone. Valérie Krova.
En Israël et aux États-Unis, l'hypothèse d'un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou est prise très au sérieux. Le Premier ministre a pris les devants. La menace d'arrêter des responsables de la seule démocratie du Moyen-Orient créerait un dangereux précédent, a-t-il écrit récemment sur X, dénotant une réelle inquiétude. Yoann Soufi est avocat spécialiste du droit international.
Oui, il a raison d'être inquiet parce que une fois qu'un mandat d'arrêt est délivré par la Cour pénale internationale, les 124 États qui sont membres aujourd'hui de la Cour ont l'obligation juridique d'arrêter les individus à partir du moment où ils posent le pied sur leur territoire. C'est exactement la même chose pour le mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour les crimes commis en Ukraine.
Benjamin Netanyahou serait contraint de limiter ses déplacements, comme Vladimir Poutine depuis mars 2023, à l'exception des pays qui n'ont pas ratifié le traité fondateur de la CPI. C'est aussi le cas d'Israël et de son allié américain, qui réfute la compétence de la Cour à délivrer des mandats d'arrêt. Mandat qui serait pourtant sur le point d'être émis.
Les mandats d'arrêt sont imminents, on parle plutôt d'une question de jour.
Le procureur de la CPI devrait de la même manière lancer des mandats d'arrêt contre les responsables du Hamas qui ont organisé les attaques du 7 octobre.
Benjamin Netanyahou qui reçoit ce matin dans son bureau à Jérusalem le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, venu lui redire son opposition à une offensive à Rafah qu'Israël entend maintenir coûte que coûte. Et alors que la mort, selon le Hamas, de plus de 34 500 personnes à Gaza mobilise les étudiants américains, des dizaines de policiers de New York anti-émeute sont intervenus manu militari il y a quelques heures à peine pour déloger les manifestants de Columbia. Pendant qu'à Providence, dans le nord-est du pays, un accord a été conclu pour la première fois entre une direction d'une université et des étudiants. La présidente de Brown University a promis que son conseil d'administration étudierait la possibilité de couper des liens avec des sociétés liées à Israël, en échange de quoi les étudiants ont levé le camp.
Il est 7h06, des cortèges dans toute la France aujourd'hui.
Oui, c'est le 1er mai, fête des travailleurs. 120 000 à 150 000 personnes attendues dans les 270 rassemblements partout dans le pays. Premier cortège dès 10h ce matin, comme à Clermont-Ferrand. À Paris, la manifestation partira de République à 14h, direction Nation. Bonjour Maxime Detz.
Bonjour.
Un an après la réforme des retraites, un 1er mai moins unitaire que l'an passé.
Oui, comme un retour à la normale. Hein. S'il fallait un symbole, il y a un an, Force ouvrière, fait extrêmement rare, avait accepté de défiler aux côtés de la CGT, comme au moment de la loi travail en 2016. Les retraites en 2023 avaient justifié ça. Cette fois, les deux frères ennemis, entre guillemets, défileront chacun de leur côté à Paris. Pas de photos cette année non plus des leaders syndicaux ensemble. Si Sophie Binet sera bien dans le cortège parisien pour la CGT, son homologue à la CFDT, Marie-Lise Léon, est attendue, elle, à Nancy à la mi-journée. CFDT et CGT qui n'ont d'ailleurs pas réussi à s'accorder sur la rédaction d'un communiqué commun pour ce 1er mai.
Le temps de l'intersyndical semble donc loin, Maxime, mais cela ne veut pas dire que les syndicats ne sont d'accord sur rien.
Alors non, hein, on peut parfois être d'accord sur le fond et choisir de rester discret sur la forme. Puisque l'on parle travail en ce jour spécial, parlons aussi de ceux qui en sont privés, de ce qui les attend plutôt si le gouvernement resserre encore les règles de l'assurance chômage. Opposition claire ici, par exemple, de tous les syndicats, comme le rappelle François Omril à la CFE-CGC.
Qu'on ne soit pas tous ensemble au 1er mai ne dit rien de ce qu'on sera en capacité de mettre en place dans les jours et dans les semaines qui viennent.
Unité totale sur ce sujet populiste, néfaste, disent les syndicats, où l'on sent qu'il ne faudrait pas les pousser trop longtemps pour qu'ils se retrouvent, même si le temps de prendre la pause ensemble semble pour l'instant appartenir au passé.
Maxime Deps, et puis dans les manifestations peut-être aussi des enseignants, le ministère en recherche d'économie a demandé au rectorat de raboter les heures supplémentaires des professeurs. Elles ne sont plus payées jusqu'à la fin de l'année scolaire. Certaines heures de cours ou de dispositifs de soutien ou d'orientation vont donc s'arrêter brutalement, y compris pour les élèves. Le groupe Bolloré cherche à investir dans la construction d'une usine géante de batteries électriques. Information ce matin du journal Les Échos. Un investissement de plus de 2 milliards d'euros pour une usine qui emploierait 1500 personnes à l'horizon 2030. On en est qu'au stade du projet qui prendrait forme à un carrefour logistique entre la France et l'Allemagne. On y revient avec l'édito Écho à 8h moins le quart. Un 1er mai trusté aussi de longue date par les lepénistes qui choisissent donc aujourd'hui de présenter les 35 premiers noms de la liste que le Rassemblement National présente aux élections européennes. La date, symbolique donc, le lieu aussi, Perpignan, ville gagnée par le parti il y a 4 ans. Une liste que Jordan Bardella a commencé à dévoiler depuis plusieurs semaines, mettant en scène chaque ralliement de la société civile, avec Élodie Forêt toutefois des failles dans le casting.
La joie du délégué départemental du RN à Mayotte aura été de courte durée, annoncée sur la liste mais rapidement évincée, en cause des saillies racistes, complotistes et sexistes sur sa page Facebook révélée par Libération. Une erreur vite oubliée, veut croire un élu. Sulfureuse aussi, l'essayiste Malika Sorel, très radicale sur l'assimilation. Dans son dernier livre, elle s'interroge ainsi sur les efforts réellement fait par Éric Zemmour, lui qui s'est marié avec des femmes de sa communauté, écrit-elle. C'est une intellectuelle, elle n'a pas les mêmes cotes que nous, excuse un député qui l'assure, la présence de Sorel reste un plus et le bilan des ralliés est positif, avec notamment de hauts fonctionnaires qui osent sortir de l'ombre. Un recrutement qui, selon un ancien du RN, ne masque qu'à peine l'extrême faiblesse de l'appareil et de ses ressources humaines, qui conduirait le parti à réinvestir les eurodéputés sortants les plus controversés. Le russophile Thierry Mariani ou l'égérie des antivax Virginie Joron devraient ainsi conserver leur position éligible.
Meeting du Rassemblement National donc cet après-midi à Perpignan, avec aussi la prise de parole de Marine Le Pen.
7h10, ils ne peuvent pas se déplacer sans leur chien, mais ce n'est pas toujours facile.
Oui, trop de taxis ou de VTC refusent encore de faire monter les chiens guides d'aveugles avec leur maître. La loi l'exige pourtant et y contrevenir est passible d'amende. Les entreprises du secteur, Uber en tête, tentent donc de faire des efforts pour lutter contre cette discrimination. Reportage Sarah Mansoura.
Il y a quelques jours, Thibaut de Martinpré veut embarquer dans un Uber avec sa chienne. Il essuie un refus.
Le chauffeur voulait partir alors que mon chien était dans le véhicule. Moi, j'avais la laisse au bout de la main et puis il partait la porte ouverte.
Situation malheureusement courante, selon lui.
Alors, ce qui se passe souvent, c'est qu'il voit le chien et il repart tout de suite. Donc, je vois juste dans l'application que le chauffeur a annulé la course. Bon, c'est discriminant, c'est fatigant, ça ramène du stress, la charge mentale en plus.
Encore affecté par une violente altercation l'an dernier, Anthony Martin-Smith voit des améliorations chez les plateformes, mais n'embarque plus sans ses lunettes avec caméra intégrée.
Pour moi, la vidéo est un moyen de me protéger, mais là, je filme uniquement quand je sens que la situation peut être conflictuelle ou surtout quand le chauffeur a une note dégradée.
Son cas a largement accéléré les efforts de pédagogie chez Uber. Depuis septembre, la plateforme oblige tous ses chauffeurs à visionner une vidéo rappelant la loi.
La personne est garante de son chien et le fera monter elle-même dans la voiture.
Louise Pazin, responsable communication.
Et les chauffeurs ont 100 jours pour regarder cette vidéo pour pouvoir continuer à se connecter à l'application Uber et donc recevoir des courses. Et aujourd'hui, c'est plus de 50 000 chauffeurs qui ont visionné cette vidéo.
Uber travaille avec des associations pour mieux cibler les cas de discrimination et les sanctionner. Les utilisateurs saluent ces progrès mais regrettent que les forces de l'ordre ne soient pas toujours au courant qu'il est illégal de refuser un chien accompagnateur.
Le ministre des Transports a annoncé hier soir que l'État allait prendre en charge la moitié du péage de l'A14 pendant la fermeture du tronçon de l'A13 qui mène à Paris. Attention, cela ne concerne que le covoiturage, donc à partir de deux personnes dans le véhicule. Les modalités techniques ne sont pas encore précisées. L'Île-de-France qui va être balayée par des orages ce soir. Tous les départements de la région sont en vigilance orange. Au total, 14 départements avec aussi la Marne, l'Aube, Lyon, l'Oise, la Somme et l'Aisne. Le PSG fera-t-il ce soir un pas vers la finale de la Ligue des Champions de football? Première étape à Dortmund contre le Borussia, c'est ce soir à 21h. Dans l'autre match hier, demi-finale à rebondissement entre le Bayern et le Real, un pénalty de chaque côté et un nul de partout arraché par les Espagnols à 10 minutes de la fin. Tout se jouera donc dans 8 jours à Madrid. Madrid qui a fait ses adieux hier à son dieu du tennis, Rafael Nadal, éliminé en 8e de finale du tournoi par Jiří Lehečka. C'était le dernier match de l'Espagnol en compétition dans son pays. Le central était donc archi comble pour dire au revoir au plus grand sportif espagnol de l'histoire, Fabrice Abgral.
Il est minuit 4, un dernier revers dans le couloir et c'est fini. Rafael Nadal s'incline, battu, éliminé. Alors certes, il n'en a pas terminé avec le tennis, mais c'était bien son dernier match à Madrid devant son public, ses amis et sa famille. À la fin de la rencontre, sur le court, Rafael Nadal s'est adressé aux spectateurs. Il était souriant, parfois très drôle, évidemment ému. Mais il n'a jamais pleuré.
C'est très spécial pour moi à bien des égards. Honnêtement, j'ai eu l'opportunité de pouvoir jouer une fois de plus ici, sur ce court qui m'a tant apporté à tout point de vue. Mais c'est vraiment la dernière fois que je viens ici à Madrid. J'ai eu la chance de pouvoir faire de ma passion mon métier. C'est un cadeau qui m'a été fait pendant 21 ans. Merci.
Puis Rafael Nadal a repris son sac, il a salué le public, il a quitté le court central sous les applaudissements et l'ovation d'un public espagnol ému aux larmes.
Voilà, et quant à Roland Garros, eh bien, il prendra sa décision après le tournoi de Rome qui débute dans une semaine.
Merci Anaïs Feugat. Dans 3 minutes, le Zoom. Aujourd'hui, auprès des militants du printemps écologique. C'est le premier syndicat vert.
France Inter présente
Xi Jinping, le prince rouge, le podcast sur l'histoire réelle et méconnue du maître de la Chine.
Dominique André.
Qui connaît l'enfance dorée du président chinois? Comment a-t-il survécu à la révolution culturelle? De la mort de Mao au pouvoir suprême, parcours calculé d'un homme puissant qui, depuis 2012, dirige un sixième de l'humanité.
Xi Jinping, le prince rouge.
À télécharger sur l'appli Radio France et franceinter.fr.
Il est 7h14.
France Inter. Nicolas Demorand, le 7-10.
On a donc appris il y a un peu plus d'une heure la mort du romancier Paul Auster, le plus français des écrivains américains. 80 secondes ce matin pour saluer sa mémoire, lui qui avait vécu à Paris, qui parlait notre langue, qui fut traducteur de nos poètes, qui comptait ici un public nombreux et passionné. Écoutez Paul Auster au micro d'Augustin Trapenard parler en français, bien sûr, du processus d'écriture.
L'écriture devient quelque chose qui ne vient pas de la tête, mais du corps. Et c'est, je crois, ça prend des années à arriver à ce stade. Et si, au début, on est très conscient de soi, on est nerveux, on ne sait pas exactement comment exprimer quelque chose. Il faut beaucoup de pratique, beaucoup d'exercice, d'arriver à un moment où ça devient plus ou moins naturel, c'est-à-dire du corps.
Paul Auster, au micro d'Augustin Trapenard, en 2018, je vous rappelle qu'à 7h50, l'invité de Sonia De Villers sera Françoise Nyssen, l'éditrice historique de tous les livres de Paul Auster, chez Actes Sud. Et tout de suite, le Zoom. Il se présente comme le premier éco-syndicat de la planète. Né en 2019, le printemps écologique commence à se frayer un chemin dans le paysage syndical français, surtout chez les jeunes actifs. Il a par exemple élu des représentants dans plusieurs grandes entreprises, Orange, Nestlé ou encore Ubisoft. Son objectif, mêler questions sociales et problématiques environnementales et que les entreprises s'empare de ces enjeux. Arthur Fradin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes allé, Arthur, à la rencontre de plusieurs membres de ce syndicat qui refusent de laisser la question écologique à l'arrière-plan.
Un point blanc serré sur fond vert qui tient fermement une feuille d'arbre.
On a les drapeaux, il y a des affiches.
Voilà l'emblème qu'a choisi le printemps écologique pour être bien reconnaissable dans les cortèges et en dehors. Une façon de symboliser la lutte pour l'environnement menée par le syndicat.
Bah, notre marque de fabrique, c'est faire avancer le schmilblick. Hein.
Anne Lecor, la cofondatrice, qui nous reçoit dans les locaux parisiens situés tout près de l'hôtel de ville.
On est un éco-syndicat, ça veut dire transformer les entreprises et faire en sorte qu'on aille vers un monde durable et soutenable.
Quand on demande à cet ex-salarié de chez Renault pourquoi le mouvement a été lancé il y a 4 ans...
C'est se dire comment est-ce qu'on peut traiter toutes les questions sociales qui sont habituellement traitées par les syndicats, les élargir et prendre en transverse la question de la crise écologique, parce que pour nous, le social et l'écologie sont les faces d'une même pièce. Et en fait, on ne vient pas en concurrence, mais plutôt en complément. On travaille d'ailleurs beaucoup avec eux sur plein d'aspects. On construit des listes communes dans les entreprises.
Une recette qui rencontre déjà un certain succès, puisque le printemps écologique, c'est 500 adhérents et 300 élus.
En fait, c'est hyper intéressant. Si j'avais vraiment su quels étaient les moyens d'action et le pouvoir d'un CSE, je me serais engagé il y a 10 ans.
En pleine réunion, on retrouve Antoine Clément, élu CSE dans un groupe d'éditeurs de logiciels.
Quand j'ai entendu parler du printemps écologique en 2019, ça m'a beaucoup intéressé. Je pense que c'est le bon angle d'attaque de penser écologie et sociale au sein du CSE. Et je travaille très bien avec les autres syndicats qui me disent c'est génial, ça apporte une force nouvelle, travaillons ensemble. Et c'est même bien vu de la direction parce que la direction n'avait pas forcément cette expertise environnementale dans sa direction financière ou sa direction RSE. Et donc ils sont très contents d'avoir finalement des interlocuteurs.
Comme Antoine, beaucoup de membres du printemps écologique n'étaient pas engagés dans des syndicats auparavant.
Alors Arthur, quels sont les sujets sur lesquels le printemps écologique se veut pionnier et qu'est-ce qui fait surtout sa différence par rapport aux autres syndicats?
Eh bien, au sein de son entreprise, Antoine Clément essaye par exemple de jouer un rôle de médiateur sur les questions écologiques.
Il y a deux types de personnes qui viennent nous voir. Il y a les types de personnes très moteurs qui nous disent les voyages en avion, faut arrêter, faut être hyper ambitieux, faut aller très vite. Et les gens qui veulent absolument pas que ça change. Ils me disent tu ne toucheras pas à mon voyage au Japon. Il faut entendre les revendications de tout le monde et essayer de trouver un peu des compromis. Très bien, on va garder le voyage au Japon. Peut-être qu'on mettra un peu moins de place. Peut-être qu'on va complémenter avec autre chose. L'idée, c'est de trouver les bons curseurs pour formuler des propositions et dire aux collaborateurs, voilà, on va essayer comme ça de maximiser la réduction de gaz à effet de serre.
Élus et syndicats essayent ainsi de peser sur les accords d'entreprise, mais aussi sur les choix stratégiques faits en interne.
Quelque chose que moi, je vois dans mon entreprise, par exemple, c'est l'engouement pour l'intelligence artificielle générative.
Clotilde Mayer, déléguée Printemps écologique dans une entreprise de jeux vidéo.
Enfin, c'est une technologie qui peut amener plein de choses. Mais elle amène énormément de questionnements et y aller juste en disant « Oui, c'est super, allons-y », bah en fait, ça a un impact environnemental. C'est ramener cette voix et dire « Eh oh, est-ce que vous avez pensé à ça ?» Juste dire « Eh oh », c'est déjà pas mal.
Alors, un syndicat qui fait la chasse à la pollution, est-ce qu'il balaye pour autant devant sa porte ?
Question pratique sur des tracks, des goodies, des choses comme ça qu'il peut y avoir dans des syndicats. Est-ce que vous avez une politique zéro carbone ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Je pense qu'il faut vraiment avoir en tête cette idée des échelles de valeur.
Anne Lecor, la cofondatrice.
Un monde à plus de degrés, c'est chiant. Deux tracts, ça l'est moins.
Un syndicat qui ferait des goodies, si chaque goodies permet d'éviter une tonne de CO2 dans l'année, ben moi je dis faisons des goodies.
Et on effectivement. Va pas, on va pas le faire,
on va pas le faire. Mais c'est pour va. Dire.
Bon, la question des goodies reste encore en suspens, mais le syndicat compte bien user de tous ses moyens d'action.
Notre impact, il est vraiment d'explorer un maximum tout le champ du dialogue social et essayer de pousser les murs du cadre légal aujourd'hui, qui est en fait assez restrictif.
Le printemps écologique, qui espère gagner du terrain, est aujourd'hui représentatif dans une soixantaine d'entreprises.
Arthur Fradin, merci pour ce zoom. À retrouver sur franceinter.fr.
Le 7-10 sur France Inter.
7h20 en toute subjectivité ce matin avec le journaliste et présentateur de l'émission Sur le front sur France 5, Hugo Clément, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Hugo, ce matin vous nous parlez d'une sonde perdue dans l'espace interstellaire.
Oui, elle s'appelle Voyager 1, elle a été lancée en 1977 et elle se trouve actuellement, tenez-vous bien, à 24 milliards de kilomètres de la Terre, soit 160 fois la distance qui nous sépare du Soleil. Aucune sonde spatiale n'a jamais été aussi éloignée de notre planète et on a bien failli la perdre pour toujours puisque depuis quelques mois, elle n'envoyait plus aucune donnée exploitable. Mais miracle de la technologie, les techniciens de la NASA ont finalement réussi à reprendre contact avec Voyager 1 il y a une dizaine de jours et elle s'est remise à nous envoyer des messages. Au fil des décennies, Voyager 1 a permis à la science de faire des pas de géant dans la connaissance de l'espace et en 1990, alors qu'elle se trouvait déjà à 6 milliards de kilomètres de la Terre, la sonde s'est retournée pour prendre une photo souvenir du système solaire. Sur cette image, on aperçoit un minuscule point lumineux perdu dans l'obscurité de l'univers. Ce point, c'est notre planète. Quand on observe ce cliché, on est pris d'un vertige. Et je vais vous lire un court extrait du texte écrit à l'époque par l'astronome américain Carl Sagan. « Regardez ce point. C'est ici. C'est notre foyer. C'est nous. » Sur lui, tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez entendu parler, tous les êtres humains qui aient jamais vécu. Toute la somme de nos joies et de nos souffrances, des milliers de religions aux convictions assurées, d'idéologies et de doctrines économiques, tous les héros et tous les lâches, tous les créateurs et destructeurs de civilisations, tous les rois et tous les paysans, tous les jeunes couples d'amoureux, tous les pères et les mères, tous les enfants pleins d'espoir, toutes les superstars, tous les guides suprêmes, tous les saints et tous les pécheurs de l'histoire de notre espèce ont vécu ici, sur un grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. La Terre est une toute petite scène dans une vaste arène cosmique. Nos postures, l'importance que nous nous imaginons avoir, l'illusion que nous avons une position privilégiée dans l'univers sont mises en question par ce point de lumière pâle. Il n'y a peut-être pas de meilleure démonstration de la folie des vanités humaines que cette lointaine image de notre monde minuscule. Carl Sagan concluait son texte en appelant l'humanité à s'unir pour préserver ce petit point lumineux perdu dans l'univers. « La seule maison que nous ayons jamais connue », disait-il. Les scientifiques qui ont conçu Voyager 1 ont inséré dans la sonde des disques contenant des images et des sons de notre planète, pour que si un jour, une forme de vie entre en contact avec Voyager 1 aux confins de l'univers, elle sache au moins que nous étions là, sur ce miracle bleu qu'on appelle la Terre.
Hugo Clément, merci et à mercredi prochain.
Le 7-10 sur France Inter.
Et bonjour Aline Fanoukoé.
Bonjour Nicolas, hola à todos.
Le duo britannique phare des années 80, les Pet Shop Boys, sont de retour avec un 15e album studio, 40 ans après leur légendaire hit West End Girls. À cette occasion, flashback sur leur morceau, leur tube dans Musicaline. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand and it's pointing at your head. You think you're mad, too unstable. Kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around. Running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, a dead end world. The East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world. The East End boys and West End girls. West End girls. West End girls, sous influence d'un hip-hop naissant avec la précieuse contribution du producteur américain renommé Chep Pettibone. En 2005, 20 ans après sa sortie, ce joyau a été couronné chanson de la décennie par l'Académie britannique des auteurs, compositeurs et auteurs. Écrite par le duo le plus célèbre du Royaume-Uni, 50 millions de ventes au compteur. Une ascension entamée en 1981 à Londres par un ancien journaliste musical et un ancien DJ, tous deux artisans d'une synth pop sacrée et consacrée. C'est l'un des plus grands succès du groupe, extrait de Actually, deuxième album en 1987, en tête des classements dans plusieurs pays. La chanson critique l'éducation catholique très stricte reçue par le chanteur Neil Tennant, où il était enseigné que tout était un péché. En 2021, It's a Sin donne son titre à une série télévisée reprise à cette occasion par le groupe Years and Years et Elton John. Elle atteint de nouveaux sommets au Royaume-Uni du pain béni. En parlant de sacrilège et de reprise... C'est grâce à leur relecture de Go West de Village People que les Pet Shop Boys deviennent une figure emblématique de la communauté gay. Et comment se sont-ils imposés?
Par l'originalité de leur mélange, dès leur premier disque, Please, en 1986, Pet Shop Boys a sculpté son empreinte avec des influences disco, new wave, house et dance pop. Il contient notamment Suburbia, qui traite de l'ennui des banlieues sur une mélodie profondément sentimentale. Pet Shop Boys a fait le tour du monde, a collaboré avec les plus grands, de Liza Minnelli à Kylie Minogue. Le temps passe, mais le tandem perdure avec de nouvelles aventures sonores. Dancing Star, en hommage à l'emblématique danseur de ballet Nourieff, avec la participation du producteur James Ford, celui de Depeche Mode ou encore Gorillaz. Autrement dit, la personne idéale pour garantir au duo un retour absolument moderne sur le devant de la scène.
Nonetheless, des Pet Shop Boys est disponible avec une version CD de luxe qui comprend une nouvelle version de quelques-uns de leurs meilleurs morceaux. Aline, merci. Il est 7h27 et la météo est à suivre.
France Inter, c'est aussi sur les réseaux sociaux.
Sur TikTok, l'humour, l'info, la musique et plein de surprises.
Facebook, X, Snap, Insta, Twitch, TikTok, abonnez-vous.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Et un 1er mai très instable, Marie-Pierre.
Oui, Nicolas est aussi très, très orageux. L'un des 1er mai les plus maussades de ces dernières années, car en fait, on a les deux perturbations d'hier qui fusionnent et l'air chaud en basse couche rencontre l'air froid qui arrive avec la perturbation irlandaise. Ça va déclencher donc ces orages après les pluies soutenues de la matinée qui vont concerner pratiquement toutes les régions. Ces salves orageuses enclenchent donc une vigilance orange, Nicolas, dès 17h qui vont concerner 14 départements de la Bourgogne à l'Île-de-France en remontant vers les Hauts-de-France. Cette vigilance pourrait évoluer à cause des forts cumuls de pluie attendu. Vers Paris, par exemple, on attend l'équivalent d'un mois de pluie en 3 heures, mais il ne devrait pas encore pleuvoir cet après-midi sur la capitale, mais on prend le parapluie au cas où. Les orages éclateront également sur la Corse, les Pyrénées, le Massif central, la Normandie. À noter le forte chute de neige sur les Pyrénées à 1800 mètres. Puis il y aura quand même un bastion de résistance. La Lorraine et l'Alsace resteront sous le soleil et la façade atlantique cet après-midi va retrouver quelques éclaircies.
Et les températures sont contrastées.
Oui, il fait 5 degrés seulement dans le Finistère à Brennélis. À l'opposé, vous avez 16 à Fréjus. Il fait 7 à Cabourg, 16 à Ajaccio cet après-midi. Attention à la chute des températures comme à Bordeaux. Hier, il a fait 22. Cet après-midi, il fera seulement que 13 degrés. Vous n'aurez pas plus de 12 à Aurillac, 14 à Rouen, 18 à Lyon, encore 21 à Paris, 26 à Strasbourg, mais 16 à Montpellier.
Merci Marie-Pierre. À suivre dans la prochaine demi-heure, Yael Gauz, Dominique Seux, Mathieu Noël. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour monsieur.
Yael, édito politique.
En majorité relative, le budget échappe de plus en plus au Parlement et c'est un problème démocratique.
Dominique, l'économie.
Si je vous dis Vincent Bolloré, bah vous pensez évidemment au JDD, à CNews, à la reprise du groupe Lagardère, mais tiens, c'est aussi un groupe industriel qui accélère aujourd'hui dans les voitures électriques. Accélère voiture, oui, on est le 1er mai.
Mathieu, avant 8h. Justement, Nicolas, petite devinette, on est le 1er mai. Vous m'avez changé d'invité du 7h50 parce que Paul Auster est mort, j'ai eu 30 minutes pour réagir. Est-ce que vous pensez qu'on s'oriente vers ma meilleure chronique de l'année?
Oui.
Non, mauvaise réponse. Allez, à tout à l'heure. France Inter, il est 7h30. Le journal Christelle Rebière, bonjour.
Bonjour à tous. La sécurité est-elle compatible avec les libertés publiques? Question cruciale pour les JO. À Saint-Denis, certains s'inquiètent des moyens de surveillance. Ils reviennent du front déboussolés, grièvement blessés. Rencontre émouvante dans ce journal avec un soldat ukrainien amputé que son pays a du mal à regarder en face. Une tête de liste qui peine à exister, Manon Aubry d'LFI était en meeting à Grenoble hier soir. Des victimes qui défendent les accusés. Scène surréaliste au procès de la secte de la Grande Mutation. Et puis nous irons au cinéma voir Le Tableau Volé, l'incroyable histoire d'une toile d'Egon Schiele.
Et au micro de Sonia De Villers, Françoise Nyssen, ancienne ministre de la Culture, dirigeante des éditions Actes Sud et amie proche de l'écrivain Paul Auster, mort tout à l'heure ce matin à l'âge de 77 ans.
France Inter.
Plus vite, plus haut, plus fort, plus sûr aussi. L'enjeu des Jeux Olympiques de Paris est autant sécuritaire que sportif. 45 000 gendarmes et policiers mobilisés, sans compter les 18 000 militaires et la sécurité privée, avec une surveillance vidéo inédite. Mais tout cela sera-t-il encadré? Dans quelle mesure les droits fondamentaux des habitants seront-ils respectés? Plusieurs collectifs et associations se sont retrouvés il y a quelques jours lors d'une réunion publique à Saint-Denis, ville olympique. Reportage d'Ajra Mohamed.
Leur principale inquiétude serait résume en 3 lettres, VSA.
VSA, ça veut dire vidéosurveillance algorithmique.
Noémie Levin est juriste à la Quadrature du Net, une association de défense des libertés numériques.
C'est un logiciel qui est ajouté au flux de caméras de vidéosurveillance pour analyser les images et repérer certains comportements dits suspects ou anormaux, mais qui sont en réalité des choses très banales, comme marcher à contresens, comme un groupe qui se forme, comme être à terre. Il y a un risque évidemment de fichage généralisé et de surveillance généralisée.
Une surveillance abusive, c'est ce que pense également Alexandre Schoen, membre du comité Vigilance JO Saint-Denis 2024 et de la Ligue des droits de l'homme. Tout cela pourrait, selon lui, amener à des interpellations, elles aussi abusives.
On craint véritablement une surenchère sécuritaire et répressive, avec bien sûr des risques d'arrestation arbitraire pendant les Jeux Olympiques. Avec l'idée qu'on a toute une structure d'équipement et d'infrastructures comme les caméras qui soutiennent et qui corroborent quand ça va et qui peuvent être passées sous le tapis au moment où ça dessert plutôt les forces de l'ordre, au détriment des libertés fondamentales.
Avec le risque de créer des tensions supplémentaires pendant les JO dans un territoire où les relations entre la police et la population ne sont pas toujours apaisées.
Un reportage à Ajra Mohamed. Et à 86 jours du début des Jeux, 2 ordinateurs d'une responsable de l'organisation des Jeux à Lille ont été volés dans une voiture. Selon une source policière, ces ordinateurs étaient susceptibles de contenir des plans de sécurité des infrastructures du village olympique de Villeneuve-d'Ascq. C'est grâce à son admiration pour un joueur de baseball qu'il avait commencé à écrire. Le romancier américain Paul Auster s'est éteint des suites d'un cancer chez lui à New York.
cette ville qui l'avait tant inspiré. Il avait 77 ans. On y reviendra sur son parcours, sur le parcours du plus francophile des écrivains américains à 7h50 avec Françoise Nyssen, invitée de Sonia De Villers.
Il est 7h33, des frappes russes cette nuit sur la ville d'Odessa.
Il y aurait 3 morts et 3 blessés. La Russie pousse son avantage à la faveur du printemps. Sur le front, les Ukrainiens mobilisés sont épuisés psychologiquement et parfois grièvement blessés. On croise d'ailleurs partout dans les rues du pays d'anciens soldats amputés, portant des prothèses ou bien se déplaçant en fauteuil roulant. Mais l'Ukraine est-elle prête à faire face à tant d'handicapés de guerre? Pas sûr. C'est un reportage dans la région de Kiev d'Agathe Mahué et de Yachar Vasilov.
Oleksandr Popik a toujours ses deux jambes, mais elles ne répondent plus depuis un an et demi. Dans son fauteuil roulant, chez lui, il raconte Bakhmout dès le début de la guerre. En octobre 2022, il est atteint par le tir d'un char.
Ça m'a fait un trou de 17 cm dans la colonne. La moelle épinière est touchée.
Le diagnostic est clair.
On m'a dit que je ne marcherai plus jamais.
Oleksandr soudain se tord de douleur en silence. Il enfonce très fort sa main dans sa cuisse. C'est normal, dit-il.
C'est
tout le temps comme ça.
J'ai des spasmes, des crampes en permanence.
Pour calmer ses souffrances, il lui faudrait un neurostimulateur, mais cela coûte 17 000 euros.
Et l'État s'en fout, je dois trouver cette somme moi-même.
Oleksandr bataille déjà pour toucher sa pension d'invalidité et réaménager sa maison. Une rampe d'accès pour son fauteuil. La salle de bain, c'est son épouse et ses amis qui l'ont refaite. Supprimer le bac de douche, surélever le lavabo.
On a payé tout ça de notre poche. L'État, quand tu es au front, a besoin de toi. Mais si tu en sors handicapé, plus personne ne s'occupe de toi.
Pour lui, l'Ukraine n'est pas prête face à ce défi-là. Mais si c'était à refaire, il y retournerait. Mettez-moi des chenilles sur mon fauteuil, dit-il, et je repars à l'assaut.
Reportage signé Agathe Mahué et Yachar Fazilov. Aux États-Unis, l'Université de Columbia évacue par la police cette nuit, qui restera jusqu'au 17 mai. Elle était devenue l'épicentre de la contestation pro-palestinienne, un mouvement qui touche aussi la France. Des manifestations à Sciences Po Lyon, Rennes après Paris, à la Sorbonne ou encore à l'Université de Saint-Étienne. Un 1er mai en ordre dispersé et qui va contraster avec celui de l'an dernier. Jusqu'à 150 000 manifestants dans toute la France, d'après les prévisions du ministère de l'Intérieur, contre 800 000 l'an dernier. On était alors en pleine réforme des retraites. Pas de défilé commun des grandes centrales et des revendications qui vont des salaires à une Europe plus protectrice en passant par la paix au Proche-Orient. Il y aura sans doute des profs dans les cortèges, d'autant que l'éducation nationale est priée de faire 700 millions d'euros d'économies dans le cadre des restrictions budgétaires. Les heures supplémentaires des professeurs ne seront plus payées jusqu'à la fin de l'année. Sylvie Perron, représentante des personnels de direction au syndicat SGEN-CFDT, détaille les conséquences.
Alors avec ces heures supplémentaires, il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir des entraînements, par exemple, aux examens. Il peut y avoir des projets pédagogiques, des ateliers qui ateliers scientifiques, qui ateliers mathématiques, qui ateliers artistiques, qui permettent aux jeunes gens d'entrer dans les apprentissages de manière différente que le cours classique et traditionnel de l'enseignant. Cette décision implique l'arrêt brutal de tout projet, y compris des projets en cours de réalisation. L'année scolaire ne s'arrêtant pas le 1er mai. Dans les établissements scolaires, on se projette sur du 1er septembre au 30 juin, voire même maintenant bien plus loin, jusqu'au 5 juillet avec les enseignants, et on accompagne les élèves de bout en bout. Et évidemment que si au mois de mai, on apprend brutalement que ce qu'on avait prévu ne peut pas se poursuivre, vous imaginez bien que les enseignants vont avoir du mal à s'engager dans des projets. Il n'y a rien de pire que d'avoir une projection annuelle et de l'avoir s'arrêter en cours de réalisation.
Sylvie Perron, interrogée par Sonia Princey. Un 1er mai mobilisateur aussi en vue des élections européennes. Le RN en meeting à Perpignan présentera sa liste autour de Jordan Bardella. À gauche, Manon Aubry était à Grenoble hier soir, la tête de liste de la France Insoumise, dépassée par la personnalité de la franco-palestinienne Rima Hassan et qui peine à exister, Claire Flochel.
Une salle surchauffée, plusieurs élus se succèdent sur scène et axent clairement leur discours sur leur soutien à Gaza. Ici la députée LFI de l'Isère, Elisa Martin.
Palestine vivra et soyons clairs, c'est un enjeu de cette campagne.
Rima Hassan est dans toutes les bouches, dans celle aussi de Mathilde Panot, la présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée qui arrive telle une star, ovationnée par le public.
C'est un immense bonheur pour moi d'être ce soir à Grenoble. D'abord parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'était le jour où, avec Rima Hassan, nous étions convoqués pour apologie du terrorisme. Et je tiens à dire que nous ne nous tairons pas.
pas facile d'exister pour la tête de liste Manon Aubry, tout de même très applaudie. L'actualité, ce n'est pas elle qui l'a fait, se défend-elle.
De média en média, on nous demande, mais vous ne parlez que de Gaza dans cette campagne. Alors, pardon, c'est pas nous qui avons fait le choix qu'un peuple se fasse massacrer dans la bande de Gaza.
Elle attaque aussi ses adversaires, François-Xavier Bellamy ou Raphaël Glucksmann, et surtout le chef de l'État.
Emmanuel Macron, ça me fait un peu penser à l'arnaqueur sur Tinder. Le mec qui fait des belles promesses, et une fois qu'il a ce qu'il veut, il disparaît. Alors le 9 juin, vous pouvez faire un truc, swipe left, passer au suivant.
Une campagne LFI marquée par son opposition à l'action nationale d'Emmanuel Macron et à la guerre à Gaza et qui laisse très peu de place pour les enjeux du Parlement européen.
Et chez Renaissance, une bonne partie du gouvernement et des chefs de la majorité ont participé hier soir au premier comité politique de la campagne autour de Gabriel Attal et de Valérie Ayer, la tête de liste à la peine dans les sondages. Des victimes qui contestent leur statut, c'est assez rare. 6 cadres de la grande mutation à mouvement sectaire sont jugés en ce moment en correctionnel à Paris, mais certains adeptes réfutent leur statut. Ils sont venus dire tout le bien qu'ils pensent de ce mouvement mené par un gourou sauveur qui affirmait avoir parcouru 22 planètes. Charlotte Piré.
C'est un procès aux frontières poreuses. Il y a par exemple ces prévenus jugés comme cadres du mouvement sectaire et qui, à l'audience, affirment avoir été sous emprise. Et puis il y en a d'autres que le parquet a rangés parmi les victimes de la grande mutation, ce que certaines ont vécu.
Comme une humiliation.
Une injustice et puis d'avoir l'impression d'être instrumentalisée et de servir de prétexte à un procès et une incompréhension.
C'est le cas de Pauline et Elisabeth, 45 et 60 ans, qui ont rejoint ce qu'elles qualifient de mouvement de pensée.
Si je n'ai pas le droit d'étudier, certes, peut-être dans un mouvement un peu atypique, et effectivement, ça peut paraître un peu farfelu pour certains, mais je ne vois pas où sont les preuves de l'emprise, puisque moi, je n'en ai tiré que de grandes joies. Et c'était un enseignement qui était riche. Et on est marqué au fer rouge.
Alors hier, elles ont tenté de convaincre que la grande mutation n'était pas un mouvement sectaire qui les aurait assujettis.
Nous avons cette étiquette de personnes sous emprise. Sauf que je suis désolée, quand je vais chez le boulanger, je ne deviens pas boulangère. Quand je vais chez le maraîcher, je ne deviens pas maraîchère. Donc j'ai le droit d'aller où je veux, de dire ce que je veux dans la mesure où je ne nuis à personne.
Reste désormais au parquet de démontrer dans son réquisitoire ce qu'il qualifie d'abus de faiblesse par l'équipe de la grande mutation.
Récit d'audio. Signé Charlotte Piret. Le tableau volé, c'est le titre d'un film qui sort ce mercredi dans les salles. L'incroyable histoire d'une toile d'Egon Schiele, spoliée par les nazis pendant la guerre, retrouvée 60 ans plus tard et vendue aux enchères en 2006 pour la somme de 17 millions d'euros. Les tournesols fanés qui ont inspiré Pascal Bonitzer. Une satire sociale aussi avec Alex Lutz et Léa Drucker qui met en scène deux mondes que tout oppose. Corinne Pellissier.
Le garçon est ouvrier chimiste.
Ouais, c'est presque un gosse. Ils sont morts de trouille.
Bonjour.
Absolument rien au départ ne prédestiné. André Masson, Alex Lutz et son ex-femme Léa Drucker a foulé le sol de la maison d'un ouvrier chimiste dans la banlieue de Mulhouse. Pour ce commissaire priseur chez Scotties, c'était plutôt jusqu'ici les salons Louis XV de ses riches clientes parisiennes. Une vie de luxe et de succès à Drouot, à des années-lumière du parcours de ce curieux client, prétendant posséder un tableau original du peintre Egon Schiele, coup magistral s'il s'avérait être un vrai pour la carrière de notre spécialiste en art moderne.
On le croyait détruit, il a disparu. En 1939.
L'occasion d'une plongée dans l'univers sans état d'âme du marché de l'art, le sens du bonheur, de l'argent, de la réussite, avec des comédiens qui sonnent juste.
Le tableau va très mal se vendre, il ne faut pas qu'il aille aux enchères.
Cette vente ne doit pas nous échapper.
L'occasion surtout de raconter l'histoire extraordinaire de ce tableau, peint en 1914, inspiré de Van Gogh et de ses tournesols, spolié par les nazis pendant la guerre, retrouvé au mur d'une maison achetée en viager par une famille modeste, et finalement vendu aux enchères en 2006, au profit des héritiers du collectionneur autrichien Karl Grunewald. On peut aujourd'hui en acheter une reproduction sur papier, encadrée pour trois fois rien. À l'époque de sa vente, il avait rapporté plus de 17 millions d'euros.
Voilà, ça s'appelle Le tableau volé. C'est signé Pascal Bonitzer.
Christelle Rebière, merci. À suivre, Yaël Gauss, Dominique Seux et Sonia De Villers.
Le soir, sur France Inter, deux heures d'infos internationales et interactives.
Le 18-20, Fabienne Sintès.
À 18h20, un jour dans le monde, le tour de la planète. En 40 minutes, avec des témoins, nos correspondants.
La population qui vient vit au rythme des sirènes. Là, je crois que j'ai pas eu une journée sans une alerte antiaérienne.
À 19h20, vous intervenez, c'est le téléphone sonne.
Moi, je voulais témoigner parce que j'ai un véhicule électrique depuis 2 ans à peu près.
Le 18-20,
c'est du lundi au vendredi à 18h sur Inter.
Il est 7h42.
Le 7-10 sur France Inter.
L'édito politique et à El Ghoz, pendant deux jours, le Parlement a débattu sans vote de la trajectoire des finances publiques. Y a-t-il un déni de démocratie sur le budget ?
À l'Assemblée lundi, au Sénat hier, Bruno Le Maire a mis les formes, prêt au dialogue. Profil bas, après le statu quo inespéré des agences de notation qui laissent un peu de répit au gouvernement. Je tends la main à toutes celles et ceux qui veulent revenir sous les 3% de déficit en 2027, a dit le ministre aux parlementaires. Co-construire, embarquer les oppositions, les dialogues de Bercy recommencent et finiront en monologue ou presque. Il y a ceux qui viennent poliment et ceux qui laissent leur chaise vide. On fait semblant, personne n'y croit vraiment.
Et pourquoi ?
Parce qu'en majorité relative, Nicolas, le Parlement est devenu une caisse d'enregistrement budgétaire. Puisque voter un budget est l'acte politique par excellence, l'addition des oppositions oblige l'exécutif à passer en force. L'État ne peut pas tourner sans budget. D'Elisabeth Borne à Gabriel Attal, les premiers ministres peuvent vouer une reconnaissance éternelle à Michel Debré, lui qui a introduit le 49-3 dans la Constitution. Mais à la longue, ce joker pose un sérieux problème démocratique. Car la raison d'être des parlements, c'est de voter l'impôt, le lever, le redistribuer, contrôler le budget. C'est écrit dans la Constitution de 1791. Et voilà nos députés version 2024 qui n'exercent pas ou mal la prérogative qui donne tout son sens à leur mandat.
Et qu'est-ce qui dysfonctionne selon vous ?
L'exécutif s'est trompé dans ses prévisions économiques, il rectifie et coupe là où ça n'était pas prévu. Déjà 10 milliards, encore 10 à venir, et tout ça sous le règne du décret. L'exécutif s'affranchit des députés puisqu'il n'y aura pas de loi de finances rectificative cet été.
Avec quelles conséquences ?
La surenchère, la déresponsabilisation générale. Puisque vous n'avez pas besoin de nous, vous aurez la censure. Le RN pose un ultimatum au gouvernement. Si d'ici 30 jours, il n'annonce pas de budget rectificatif associant le Parlement, alors il y aura motion. Pareil chez les Insoumis, coup d'éclat avant les européennes. Les Républicains, divisés entre eux, préfèrent garder cette cartouche pour plus tard, à l'automne, pour la loi de finances 2025. Sachant qu'à l'heure actuelle, sauf à dissoudre, à pile ou face, il n'y a pas de majorité alternative. Fatalité de la majorité relative qui coûte cher politiquement et financièrement puisque le moindre deal se négocie à prix d'or. Tout compte fait, c'est comme si on disait aux députés « Touchez pas à l'argent, c'est plus de votre compétence ». Et s'ils le font, le gouvernement brandit un autre joker, Nicolas, l'article 40 de la Constitution qui bloque tout amendement créant une dépense nouvelle. Bilan des courses. Déjà 32 motions de censure en moins de 2 ans. L'article 49-3 dégainé 28 fois. Les députés de la majorité ont du grain à moudre, un peu dans la task force censée accélérante, mais tout est corseté, balisé, de peur de raviver leur ras-le-bol fiscal. Ne vous étonnez pas si vos députés désertent le budget et se replient sur des sujets sociétaux en majorité relative. Le mandat de député, lui aussi, a l'air en fin de vie.
Yael Ghoz, merci, et à tout à l'heure, 8h20, pour le grand entretien avec Marie-Lise Léon.
L'édito éco avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
Dominique Seux, un nouvel acteur, est prêt à déployer en France une grande usine de batteries électriques pour voitures.
Exactement. Selon les informations révélées par les Échos hier soir, le groupe Bolloré envisage de construire ce qu'on appelle une gigafactory, un projet à plus de 2 milliards d'euros avec à terme 1500 emplois à la clé. Cette usine ne serait pas ouverte en Bretagne, la terre d'origine de Vincent Bolloré, mais dans l'est de la France, un lieu tenu secret pour l'instant. C'est le 5e projet en métropole, après ceux déjà en route du consortium Stellantis Mercedes Total Energy, du grenoblois Verkor, du taïwanais Prologium et du chinois Envision. Vincent Bolloré, dont on parle beaucoup pour son rôle dans les médias, est d'abord, on l'oublie souvent, un industriel dont la filiale Blue Solution a des savoir-faire reconnus sur le véhicule électrique. Souvenez-vous, à Paris, d'Autolib, qui a maintenant un petit air vintage dans nos mémoires. Pour le projet d'aujourd'hui, un accord de subvention serait conclu avec l'État.
Et ce projet a une particularité.
Ben oui, plusieurs centaines de personnes travaillent chez lui sur une batterie électrique de nouvelle génération, les batteries dites solides, hybride, différente des batteries lithium-ion actuelles. C'est la technologie du lithium-métal qui promet une autonomie nettement supérieure à celle que l'on connaît aujourd'hui. Alors ne me piégez pas, Nicolas, en me demandant des précisions techniques, j'en serais incapable. Mais concrètement, la densité de ces batteries serait supérieure de 20 à 30% à celle que l'on connaît actuellement et elle se rechargerait en 20 minutes seulement. Bon, vous notez que j'utilise le conditionnel, on n'y est pas encore, plusieurs problèmes techniques restent à surmonter et il y a déjà eu des déceptions, y compris chez Bolloré.
Et cette information, pardon Dominique, est en tout cas un signal.
Oui, un signal que le creux de la vague que semble connaître depuis quelques mois la voiture électrique ne décourage pas du tout les industriels qui restent confiants à moyen terme. Le paradoxe, c'est que les responsables politiques remettent en cause l'objectif d'interdire en Europe la vente de véhicules thermiques neufs à partir de 2035, mais que les industriels, comme Carlos Tavares, répètent que toute tergiversation serait contre-productive, voire mortelle. La semaine dernière, il y a eu un rapport de la Cour des comptes européenne, très sceptique, mais avec des données datant pour certaines de 2021, autant dire que ça n'a absolument aucun sens. Bref, des jeux de rôle et de lobbying étranges ont lieu actuellement.
Et où en est-on en France ?
Eh bien, comme dans d'autres pays européens, ça a tendance à plutôt fléchir. En avril, la part de marché des 100% électriques en France s'est tassée à 15% dans les ventes de véhicules neufs. Les particuliers, dopés au leasing social de l'État, restent au rendez-vous. Mais les entreprises préfèrent, hélas, toujours les hybrides rechargeables, qui sont pourtant des impostures sur le plan climatique. C'est la raison pour laquelle les usines de batteries peuvent malgré tout équiper, y compris les hybrides. On n'est pas trop prudent, on n'est jamais trop prudent.
Jamais. Dominique Semercy.
France Inter.
Il est 7h49, Sonia De Villers, votre invitée ce matin, est éditrice et ancienne ministre de la Culture.
Alors, les éditions Actes Sud ont publié, Nicolas, tous les livres de Paul Auster en France, du premier jusqu'au dernier, Baumgartner, qui est sorti là très récemment. Un long compagnonnage littéraire, une très profonde histoire de famille et d'amitié. Paul Auster est mort d'un cancer hier à Brooklyn. Bonjour Françoise Nyssen.
Bonjour Sonia De Villers.
Voilà, vous êtes à Arles et je vous remercie de nous y accueillir, car lorsque je vous ai appelé ce matin, vous étiez bien sûr très très ému. Hein. C'est plus qu'un auteur que vous perdez, c'est oui. Un ami de longue date.
Et oui, c'est ça. Et si je vous réponds, c'est parce que je pense à lui et parce que j'ai peut-être pas tout à fait le cœur de parler. Mais c'est un homme tellement immense qu'il faut le dire et le redire et le faire savoir et le faire lire.
Oui.
Absolument.
Vous vous êtes parlé tous les deux très, très récemment ?
Oui, oui. J'avais envie d'y aller, mais il était déjà trop fatigué. Je sais qu'il y a une autre auteure, grande amie, qui est partie là-bas aussi. D'autres que. Enfin bon, voilà, des gens qui y ont été. Il était très, très, très affaibli et on a eu une conversation pleine de mots d'amour. Je ne peux pas vous dire autre chose.
Par téléphone. Et avec lui, vous parliez français ?
Oui, il parlait mieux que moi.
Alors, c'est une très longue histoire entre vous, entre Paul Auster et les éditions Actes Sud. Françoise Nyssen, elle a commencé comment, cette histoire ?
Et c'est toujours une histoire, vous savez, quand on démarre dans l'édition, comme on l'a fait, en étant de nulle part, en plus de ça... dans le sud de la France et pas à Paris, pas dans un cercle, pas issu de grandes écoles, pas dans un milieu, eh bien, on allait vers les textes. C'était la curiosité.
Et c'était votre père à l'époque.
Et mon père était un grand lecteur, un amoureux de littérature, un grand curieux et il aimait tellement transmettre et il allait. Et donc, en allant à New York, il a entendu parler de Paul Auster, il s'y est précipité et il a décidé de tout prendre. Et au même moment, parce que c'est toujours des belles histoires, et je tiens à le saluer. François Samuelson m'a appelé, il était en charge du bureau du livre français à New York, pour me dire, Françoise, il faut que tu regardes ce travail que fait cet écrivain qui est publié par une toute petite presse aux États-Unis et qui devrait être connu. Et voilà, c'est comme ça qu'on a...
Et François Samuelson, qui est devenu aujourd'hui un agent littéraire incontournable en France. Alors, Hubert Nyssen donc, se rend à New York. François Samuelson vous alerte. Vous découvrez les textes donc de Paul Auster. Et votre père prend une décision, celle de commencer par publier, non pas le premier livre de Paul Auster, mais un livre qui viendra après. Le premier qui sera publié en France, ce sera Cité de Verre en 1987.
Voilà. C'était le premier de la fameuse trilogie, hein, qui ensuite c'était Revenant et La Chambre dérobée.
La trilogie new-yorkaise.
New-yorkaise, qui a tellement marqué tous les esprits. Et le premier dont vous parliez, c'était L'invention de la solitude, qui est un livre absolument fondateur pour entendre la voix de Paul et l'œuvre de Paul, ouais. Mais qui était peut-être moins purement romanesque comme la Cité de verre. Et ça a été un choc. Enfin, ça a vraiment.
C'est ça.
Je crois,
donc L'invention de la solitude est paru après. Et puis d'abord, oui. La Cité de verre.
Voilà, Cité de verre, Revenant et La Chambre dérobée qui renouvelait un genre littéraire qui était absolument incroyable. Et ça a été, alors je tiens à le dire parce que c'est quand on doit les saluer. Moi, je me souviens qu'à l'époque, on a été tellement impressionnés par ce livre que j'ai écrit personnellement à de nombreux libraires. On n'était rien du tout encore à l'époque, ouais. Tout petit. Et j'ai écrit à la main à de nombreux libraires, notamment tout le groupe de l'œil de la lettre, pour leur dire, mais lisez-le, défendez-le, et ils l'ont fait.
Et ils l'ont fait. Et moi, c'est un souvenir d'enfance, Françoise Nyssen, quand la trilogie new-yorkaise était, que mes parents achetaient ce livre et qui nous cassaient les pieds quand on était petite pour qu'on le lise aussi. Mais il y a une couverture. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs de France Inter ce matin qui se souviennent de la couverture de ces livres quand vous les aviez publiés. C'était une couverture dessinée. C'était une illustration.
Ah. Oui, par
il y a Dominique Seux à côté de moi qui s'en souvient aussi.
Par une de ces grandes traductrices, qui était Christine Leboeuf, ma chère belle-mère, qui a fondé Actes Sud avec Bernice, ouais. Mon père, et qui était aussi une merveilleuse illustratrice. Et elle a fait les trois couvertures, c'était des immeubles, c'était New York, je veux dire, dessiné, c'était magnifique.
Mais c'est, ouais. Ça, c'est ça, bon, moi ça m'a beaucoup marqué. Paul Auster, donc c'est une histoire de famille, votre père, vous, votre époux Jean-Paul Capitani, qui est mort il y a un an. Filles, Pauline et Sophie, hein, qui ont grandi ensemble, qui se connaissaient.
Enfin, qui étaient du même âge et qui se sont connues toutes petites.
Toutes petites.
Je les vois bébés jouant ensemble. Donc,
ouais. Oui. Mais ce que j'aimerais que vous nous racontiez, c'est que Paul Auster, c'était aussi avec Siri Hudset, son épouse, oui. un couple de littérature.
Ah oui, c'était un couple de, je dirais, d'intelligence, d'émotion, de sensibilité et de transmission. C'était de savoir, c'était extraordinaire de les voir ensemble. Paul avait d'ailleurs une admiration sans limite pour Siri, qui est un écrivain absolument remarquable. Et d'ailleurs, il a beaucoup souffert, et elle aussi, de cet accueil en France, d'abord comme la femme de Paul Auster. C'est assez terrible. Moi, j'avais envie de dire Paul Auster, le mari de Siri Hudset.
Que vous avez publié aussi, hein, Françoise Nyssen.
Ah oui,
les livres de Siri Hudset, c'est aussi Actes Sud.
Toute l'œuvre de Siri qui est remarquable et qui fait souvent écho. Dans le scriptorium est un écho à tout ce que j'aimais, le premier livre, non pas le premier livre qu'on ait publié de Siri, mais le premier roman qui s'est vraiment fait remarquer. Et il y avait une complicité. Et puis, bon, rendons hommage à Siri, qui est sans doute un des êtres une des femmes les plus incroyables que je connaisse, d'une intelligence incroyable, qui a une curiosité, qui s'intéresse aussi bien aux sciences, à la psychanalyse, à la sociologie, à la philosophie, et qui arrive à faire de ces incroyables, ces nombreuses lectures, des synthèses extrêmement pertinentes, ouais. Dans tous les essais qui, ouais. Sont publiés. Paul était très admiratif d'elle.
Vous êtes allé plusieurs fois à Brooklyn, dans leur maison. Hein,
ouais.
Et bon, cette maison, moi, je l'ai vue publiée dans la presse. C'était la petite maison new-yorkaise, comme les Français aiment bien l'imaginer, avec des petites marches sur le perron. Est-ce que vous avez déjà regardé un match de baseball avec Paul ? Avec Paul.
Non.
Non, parce que le baseball, non. C'était partout dans
écoutez,
dans
sincèrement, ouais. Si j'étais avec, quand j'étais avec Paul, c'était être avec Paul et l'écouter, je dirais, d'une certaine, ouais. Façon. C'était un tel émerveillement de pouvoir partager, de pouvoir être ensemble. Il a passé plusieurs fois des grands temps ici dans le Midi, notamment à la maison encore il y a 2 ans. On a passé un long moment à la maison. C'était extraordinaire. Rien que d'être avec lui, il y avait une densité de présence de Paul qui vous nourrissait, qui vous émerveillait. Enfin voilà.
Et avant de se quitter, Françoise Nyssen, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de Baumgartner, que moi j'ai pas encore lu, qui est donc le dernier roman de, oui. Paul Auster, que vous venez tout juste de faire traduire et de publier en,
voilà,
France.
Voilà, c'est je crois c'est le 40e ou le 41e, ouais. Livre de lui que nous publions, et c'est un véritable coup de cœur pour moi. C'est un. Alors c'est vrai que c'est ça raconte les méandres de la mémoire d'un vieux professeur de mon âge, oui, qui a perdu sa femme, comme moi j'ai perdu mon mari, et donc il parle du deuil avec cette émotion qui est nécessaire, hein, quand on est dans ce genre de situation. On a besoin de livres qui évoquent ça, mais lui il fait tout une évocation de la vie, de sa vie, de la création, et c'est fascinant. Et pour ceux qui aiment Paul Auster, ils vont retrouver plein de signes, même du voyage d'Anna Blum, de Cité de Verre, de tout ce que vous voulez.
De tous les livres qu'on a aimés.
C'est dans une narration qui ne vous lâche pas. Et c'est ça le miracle, Paul Auster. Jamais de mots inutiles, jamais de phrases trop longues, toujours une pensée tellement intelligente et tellement imagée comme on ne l'attendait pas. Quand je vous parle de Paul, je l'entends. Il avait une phrase, une façon de dire les choses qui était époustouflante.
Merci infiniment, Françoise Nyssen. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin.
Merci.
Et merci, Sonia De Villers. Il est 7h58.
France Inter.
Mathieu Noël, 45 minutes pour réécrire une nouvelle chronique et nous faire marrer avec la mort de Paul Auster. Un défi que vous allez relever ?
Absolument pas, Nicolas, je préfère vous le dire d'emblée. Même avant d'apprendre il y a une heure la mort de Paul Auster, j'avais déjà renoncé à me creuser la tête sur ce qui devait être le thème du 7h50, le blocage des facs, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais on est le 1er mai. Et moi, ma devise le 1er mai, c'est « Ta simple présence au travail est un cadeau inestimable que tu fais à ton employeur ». Le 1er mai, ce n'est pas que c'est férié, c'est méga férié. Même la cantine est fermée. C'est vraiment le jour où tu peux savoir lequel de tes collègues est encarté CGT. Bon ben, Nico, Sonia, Yael, Demi, évidemment, vous êtes plutôt CFDT. Hein. Une chose est sûre, c'est pas un 1er mai, alors qu'en lieu et place des 2 millions habituels, 37 personnes nous écoutent, peut-être même 36 depuis l'édito d'Yael sur la trajectoire des finances publiques que même Bruno Le Maire a trouvé chiant, que j'allais me claquer un neurone pour trouver je ne sais quel artifice humoristique nous permettant de rire des blocus universitaires, artifice qui aurait impliqué fatalement l'évocation de la jeunesse estudiantine de Dominique Seux, durant les événements de 68, alors que la plupart de ses camarades bloquaient la Sorbonne, lui s'était rangé aux côtés des CRS pour la débloquer, car au slogan il est interdit d'interdire, il opposait celui plus pragmatique de
il ne faut pas que ça soit la foire à la saucisse.
Mais non, comme je le disais, c'est le 1er mai, j'allais pas bosser toute la nuit pour une chronique qui, de toute façon, vous aurait pas fait autant marrer que mon personnage de Ryan Grosstring. D'ailleurs, c'est important, c'est pour moi aujourd'hui de rappeler, après cette incursion furtive hier sur le terrain du gag visuel et du potage, que je reste un chroniqueur satirique Télérama compatible. Et je le prouve immédiatement, en vous rappelant que